Charles Quist, bonjour.
Bonjour.
Vous avez donné aujourd'hui une conférence à la mairie de Fort-de-France, au 6e étage, sur le sens de la parole éouée, et vous intervenez dans le cadre de ces conférences sur l'Afrique.
Oui, j'ai été très honoré d'être invité ici. Je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas universitaire, je suis médecin, mais je suis également éveillé africain et j'ai voulu parler un peu de mon peuple, parler un peu de la culture éveillée et surtout de comment se fait la parole en culture éveillée. Comment est-ce qu'on transmet les connaissances en pays en culture éveillée. Et l'une des choses que j'ai trouvées, c'est que cette connaissance se transmet surtout par l'imaginaire plutôt que par le cognitif, qui est un mode de pensée différent, mais qui vaut autant que les autres.
Oui. Alors, une petite précision, docteur. Qu'est-ce qu'on dit, Éve ou Éwe?
Éve. 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 C'est-à-dire qu'on l'écrit avec une lettre qui n'existe pas en français. C'est pour ça qu'on met le W. C'est une espèce de V arrondi au bout. Et on dit le peuple Éve.
D'accord. Alors, particularité du peuple Éve, effectivement, c'est que vous dites, vous nous apprenez ce soir, que c'est un peuple itinérant qui existe depuis près de 4000 ans.
Oui, c'est un peuple qui est né pratiquement vers l'empire de Kouch, qui remonte à moins 4000 ans. Ce sont un ensemble de peuples qui vivaient dans cet empire négro-africain qui était l'équivalent des empires des pharaons. Et au bout d'un certain temps, ces peuples ont migré à travers l'Afrique pour venir vers leur site actuel. Et ça a été une migration qui a duré plusieurs siècles. C'est un peuple de migrants, effectivement, avec les peuples Ashanti, avec les peuples Haoussa et Yoruba, qui sont des peuples qui ont migré. Donc, dans cette migration, il y a toute une richesse qu'ils ont apportée avec eux. Alors, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ces quatre peuples que je viens de citer, qui ont migré ensemble, ont des cultures communes.
Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que cette culture, aujourd'hui, le peuple Éve, il se revendique comme tel et il a aujourd'hui sa place véritablement au Togo.
Alors, disons tout de suite d'emblée que ce n'est pas une culture perdue, c'est une culture vivace. J'étais au Togo en octobre et ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai décrit ici aujourd'hui. J'ai vu le système de gouvernance, j'ai vu les rois, ses assesseurs, comment on fait la justice, la palabre. Tout ça, je l'ai vu et vécu en octobre dernier. Donc, ce n'est pas une culture qui se meurt. Ce n'est pas là le problème. Même si on a voulu le faire taire, même si un gouvernement officiel ne veut pas reconnaître les cultures locales en les traitant de tribus, ce qui n'a rien à voir. La culture dont on a parlé ce soir n'a rien à voir avec la culture tribale. C'est une culture qui est toujours là, qui est toujours vivante. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est que nos enfants en soient fiers. C'est que nos enfants le prennent comme étant leur culture et pas qu'on leur dise c'est une sous-culture. Parce que c'est ce qui est en train de se passer, qu'il y a une culture dominante qui est la culture de technologie et qu'on va traiter notre culture comme une sous-culture. Nous souhaitons que nos enfants la prennent comme un autre mode de pensée, une autre façon de voir et que ce soit une vraie culture dont ils peuvent en être fiers. Ça a été le sens un peu de mon exposé ce soir et la deuxième chose qui est importante, que je voulais dire, puisque je vis aux Antilles et que c'est aux Antilles que j'ai fait cette conférence, c'est d'essayer de savoir quelles sont les choses subtiles que les Antillais ont gardées de cette culture, puisqu'on a les mêmes ancêtres en fait.
Oui. Alors, un autre aspect aussi, c'est la notion du sacré dans le cadre de la culture éveillée, puisqu'effectivement, on sait que c'est une emprise très très forte, à la fois qui permet de dynamiser dans certains cas avec les danses sur les cultures, les danses pour la chasse et compagnie, mais c'est aussi un élément limitant dans le contact avec les autres et parfois dans les différentes croyances, en particulier pour les filles.
Oui, alors le problème du sacré est pour nous un gros problème. Tout à l'heure, j'ai parlé du monde visible et du monde invisible. On ne peut pas vivre en Afrique sans ignorer ces deux mondes-là. Et le sacré naît de ça, naît du fait qu'il y a une cohabitation avec le monde invisible. Et toutes nos relations humaines sont basées sur le sacré. Tous nos systèmes de justice, de solidarité, de pensée sont basés sur le sacré. Et ce sacré ne fonctionne que dans le cadre d'une ethnie donnée. Dès qu'on sort de cette ethnie, cette espèce de relation sacrée ne marche plus. Et toutes nos difficultés sont là. Comment est-ce que moi, aujourd'hui, je vais pouvoir traiter à Caen, je vais pouvoir traiter un Haoussa de la même façon que je traite un Éve. Et ça va être de transformer ces valeurs sacrées que nous avons de solidarité, d'entraide, de les transformer en valeurs profanes. Et ça, si on y arrive, on aura fait un très grand pas pour notre culture.
D'accord. Alors, dernière question, docteur, c'est vous faire dire un petit mot tout de même sur la situation politique au Togo, puisque, bon, elle est aussi à résonance culturelle, hein, de confrontation de cultures. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, même si vous suivez les choses à distance, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis tout de même sur ce qui se passe là-bas?
Oui, là, on passe à la politique. Le Togo est un État. Et cet État est gouverné depuis 50 ans par la même famille, qui pille les recherches, les ressources du pays. Qui pille les ressources du pays. Et qui n'a rien fait. Les deux tiers de la population sont pauvres. Et éthiquement, ce n'est pas concevable qu'une même famille gouverne un pays pendant 50 ans. Et ça, pour moi, ça me choque et ça me révolte. Et je suis convaincu que ça choque et ça révolte également tous les gens de bon sens qui écoutent ça. Et au Togo, aujourd'hui, il y a une lutte qui se fait où les gens revendiquent un changement de régime. Ça va arriver, il va y avoir beaucoup de morts, mais je pense que ça va arriver. C'est une revendication légitime parce que sur le plan éthique pur, ça choque tout le monde. Il n'y a pas de raison que ça ne survienne pas. Et moi, j'y crois beaucoup. D'ici, on essaie d'aider autant qu'on peut, mais fondamentalement, c'est une lutte qui doit finir par être gagnée par le peuple togolais.
D'accord. Alors, je sais que vous avez, là vraiment la toute dernière, hein, je sais que vous avez beaucoup travaillé pour établir un pont culturel entre la Martinique et le Togo. Qu'est-ce qu'il en est exactement de toute cette tentative que vous aviez faite?
Alors, ce qu'il en est simple. Nous avons créé une association qui s'appelle Agar, et nous avons focalisé sur un petit village où Agar soutient ce village dans la scolarité, la promotion des jeunes filles et des problèmes au niveau de ce village. Et nous avons associé nos amis martiniquais à cette aventure-là. Et ils y participent. L'année dernière, on a amené un groupe de 15 martiniquais dans ce village pour vivre avec nous pendant une semaine dans ce village, partager la vie de ce village. Et chaque année, nous organisons un dîner où nous récoltons des fonds pour essayer d'aider ce village. Et nous allons continuer aussi longtemps que nous pouvons.
D'accord. Merci, docteur.
Merci beaucoup.